On le disait, une école primaire de La Salle a été évacuée ce midi à la suite d'intoxication au monoxyde de carbone. Puis on parle de malaise chez le personnel, chez les enfants. Pour avoir les derniers détails, Stéphane Smith est chef aux opérations chez Urgence Santé. Bonjour, M. Smith.
Bonjour, monsieur.
On parlait d'une quarantaine de transports jusqu'à maintenant.
En fait, on parle de 43 transports au total, 35 enfants et 8 adultes.
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'appel est rentré chez vous?
L'appel est rentré à 11h04 pour possiblement intoxication. On n'avait pas à ce moment-là la cause de l'intoxication. Donc, ce qu'Urgence Santé a fait à ce moment-là, c'est de déployer plusieurs ambulances, des chefs aux opérations, le poste de commandement. Parce que quand c'est des déploiements à risque comme ça dans une école, nous, il faut déployer le maximum là, possible. Donc, à l'arrivée sur place, on a réalisé qu'on avait des enfants entre 6 et 13 ans, plus les professeurs qui présentaient des signes et symptômes suivants, c'est-à-dire nausées, étourdissements et vomissements.
Pour vous, ça faisait pas de doute?
Ben, en fait, non. Puis, ce qui est, au moins, ce qu'on peut dire dans cette intervention-là, c'est que tout s'est bien déroulé. Là. C'est un gros déploiement quand même. Parce que quand on parle de 43 transports là, qu'on emmène en centre hospitalier, je vous confirme que ça fait beaucoup. Mais en même temps, avec tous les services d'urgence sur les lieux, tout le monde a travaillé main dans la main, puis ça a super bien été.
On nous disait à la commission scolaire qu'il y avait un détecteur de monoxyde de carbone à l'intérieur des murs de l'école, qu'il avait été testé, qu'il était fonctionnel, mais qu'il n'avait pas fonctionné en cette journée-là. C'est ce que vous avez constaté aussi sur place?
Nous, sur place, je vous dirais que c'est plus le service d'incendie qui s'occupe de cette partie-là. Nous, on s'occupe vraiment de l'état de santé des gens.
Oui.
Ce qui était important pour nous, c'était vraiment de prendre charge rapidement les enfants. Et fait que j'ai pas cette information-là pour vous.
Mais est-ce qu'il y en avait qui présentaient des signes inquiétants, avancés d'intoxication? C'était relativement sommaire, ça se limitait parce que les gens étaient éveillés, évidemment. Là, on n'était pas en période de sommeil, c'était moins grave?
Tout à fait. Je vous dirais que pour la plupart, il y avait, surtout chez les plus jeunes, peut-être un petit peu d'anxiété, ce qui est tout à fait normal.
Ouais.
Mais en fait, de signes et symptômes, on était tous à peu près au même niveau, là, c'est-à-dire étourdissement, vomissement. C'était pas plus loin, on n'avait pas de... En fait, quand on était sur place, il n'y avait pas de personne qui avait autre chose que ça. Là. On n'avait pas de perte de conscience ou altération de l'état de conscience durant qu'on était là.
Est-ce qu'on sait quel appareil pourrait être à l'origine de ça?
Aucune idée non plus. Malheureusement, je n'ai pas cette réponse-là pour vous.
Okay. Stéphane Smith, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Chef aux opérations à Urgence Santé, Christiane Laberge est avec nous. Doc Laberge, bonjour.
On veut savoir ce que ça fait. Hein?
On veut le savoir, certain.
C'est ça. Alors, tu sais que les globules rouges, c'est supposé transporter l'oxygène qui arrive du poumon et aller faire du bien partout puis ramasser le gaz carbonique, le CO2, qui doit être ramené vers les poumons, être exhalé et on recommence. Mais malheureusement, le CO, donc le monoxyde de carbone plutôt que le dioxyde de carbone, lui, il aime encore plus les globules rouges que l'oxygène. D'où la rapidité à occuper les sites de transport pour aller partout dans le corps. Et quand on a de 10 à 20 de CO, on a des maux de tête, des nausées, des vomissements, comme on avait ici, quand c'est léger. Si c'est plus grand que 20, on a des vertiges, des faiblesses, une diminution de concentration, diminution du jugement. Si on a plus que 30, on a de l'essoufflement, de la pression thoracique, de la confusion. Et si c'est plus que ça, là, on va perdre conscience, on peut être obnubilé, on peut convulser. Et plus que 60, on ne peut pas, évidemment, bouger tout seul. Donc, si on n'est pas découvert, bien là, c'est le coma et on décède. Donc, la demi-vie du monoxyde de carbone à l'air libre, comme ça, là, c'est la moitié se défait en 4,5 heures. Si on ajoute de l'oxygène, ce qui a été fait avec les enfants, je pense, on réduit ça, la demi-vie, à 1,5 heures. Et le traitement ultérieur, pour les cas plus graves, on les met dans la chambre hyperbare. Et ça prend en moyenne 20 minutes pour enlever le monoxyde de carbone et remplacer par de l'oxygène à plus forte pression et à plus forte présence.
C'est dur de faire une estimation. Parce que ça dépend, c'est quoi? C'est de la dimension de la pièce ou la concentration du gaz qui s'y trouve?
Exactement, et la grosseur des corps qui respirent et la rapidité des petits corps qui respirent.
Je disais tout à l'heure avec M. Smith, le fait que les gens sont éveillés, sont en période d'éveil, sont pleinement conscients de ce qui se passe autour d'eux, c'est ça qui évite finalement que ces gens-là, aujourd'hui, au lieu de parler de décès potentiel, où on n'est pas dans une résidence, on est dans une école en plein jour.
Absolument.
C'est ce qui a fait la différence.
Parce que ça ne sent rien, malheureusement. Ouais. Donc, comme il n'y a pas d'odeur, les gens, par exemple, on va en profiter pour faire un peu de prévention, les gens, quand ils ont très froid, ils vont souvent prendre les petits appareils de chauffage intérieur et les poêles que les gens prenaient autrefois. Les gens prenaient des poêles à gaz, puis c'était le gaz qui se disséminait dans l'appartement, des fois par des fuites. Puis il y a des gens qui s'en sont malheureusement servi pour se suicider, mais le monoxyde de carbone, il donne pas de symptômes. Alors, tu commences par avoir mal au cœur, mal à la tête, après ça, vertige, faiblesse, puis après ça, tu t'endors parce que effectivement tu deviens un peu comateux, un peu endormi, un peu comateux, et quand tu es dans le coma, tu n'es plus capable de rien faire, tu n'as plus la force musculaire, tu n'as plus le jugement, tu n'as plus la concentration, même si tu changes d'idée pour enlever, ouvrir les portes, ventiler beaucoup, parce que le traitement, c'est quand même la ventilation, ça s'évapore assez vite, mais il faut quand même avoir une grande ventilation.
Docteur Laberge, merci d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Christiane Laberge était avec nous. Je veux vous faire entendre un extrait de la commission scolaire, justement, en réaction avec cet événement à la salle.
Oui, en principe, là, ce sont des choses qui sont obligatoires. Mais dans cette école-là, il y en avait un qui a été inspecté et qui fonctionnait lors de la dernière inspection.
On parle ici du détecteur de monoxyde de carbone, bien entendu. C'est quoi la réglementation au Québec? Parce qu'au départ, on se demandait s'il y en avait un. Et ça semble, j'ai fait des vérifications, l'équipe en a fait également au courant de l'après-midi. Ça semble varier beaucoup d'un endroit à l'autre, d'un établissement à l'autre également, et du type d'établissement en lien avec le Code du bâtiment. Martin Nobert est vice-président à l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec. Bonjour, M. Nobert.
Bonjour, M. Beaumont.
C'est pas obligatoire systématiquement dans une propriété d'avoir ce type d'appareil-là.
Pas pour l'ensemble des bâtiments. Le Code du bâtiment, là, à l'édition 2008, là, qui est entré en vigueur, des modifications qui ont été apportées pour les bâtiments résidentiels et les établissements de type résidence privée pour aînés, là, les fameuses RPA. Le Code a apporté des nouvelles dispositions où on va demander, lorsqu'il y a présence d'un appareil à combustion, que ce soit à l'huile, au gaz naturel, au bois, on va demander à ce qu'il y ait un avertisseur de monoxyde de carbone qui soit installé à l'intérieur de la résidence et à proximité des chambres.
Et ça,
lorsqu'il y a présence également d'un garage de stationnement, lorsque le logement va être juxtaposé à un garage, c'est une source de monoxyde de carbone, et alors on va demander également est-ce qu'il y a la présence d'un avertisseur de monoxyde de carbone à l'intérieur.
Dans le cas qui nous occupe ici, c'est le cas d'une école primaire, c'est un établissement public, probablement qu'il devait y avoir une source de combustion, on peut penser potentiellement avec du gaz ou de l'huile, qu'importe, mais on disait qu'il y avait un détecteur de monoxyde de carbone sans qu'il ait fonctionné, qui aurait été inspecté auparavant. Ça fonctionne comment? C'est à batterie ou c'est directement sur le système électrique, ce genre d'affaire-là?
Actuellement, le monoxyde de carbone a à peu près la même pesanteur que l'air. Donc, il y a des modèles qui vont être vendus en magasin qui vont être alimentés par une source électrique. Ils doivent être munis d'une pile de secours. Okay. Tous ces types d'appareils-là aussi, ce qu'il faut comprendre au niveau des appareils de détection, c'est qu'il y a une cellule de détection à l'intérieur de l'appareil qui peut être altérée également. Donc, dans le cas présent, je veux pas m'avancer, mais est-ce qu'il y a eu des travaux à proximité de l'avertisseur qui aurait pu altérer la cellule de détection? Est-ce qu'il y avait de la poussière à l'intérieur? Est-ce qu'il a été exposé à un environnement qui aurait pu endommager la cellule de détection à l'intérieur? Est-ce que les périodicités aussi d'entretien ont été suivies selon les directives du manufacturier de l'appareil? C'est des choses qui, normalement, là, les techniciens en prévention incendie vont vérifier au niveau de ce type d'appareillage.
Donc, c'est quand même possible ce qu'on nous raconte, là, qu'on a inspecté, on s'est rendu compte que l'appareil est fonctionnel, puis là, on ne sait pas de quand date la dernière inspection, mais qu'aujourd'hui, il n'est tout simplement pas fonctionné, qu'il n'est pas décollé. Là.
Il peut avoir, c'est pas des équipements qui sont infaillibles, là, malheureusement. Mmh. Ça augmente le niveau de sécurité, au même titre que les avertisseurs de fumée vont augmenter vos chances de survie lorsqu'un incendie survient. Par contre, ce sont des équipements qui sont mécaniques. Ouais. Ce n'est pas infaillible. Et il faut également observer attentivement les directives du manufacturier, particulièrement ce qui a trait à l'installation. Donc, ils vont recommander de l'installer dans un environnement ou une hauteur précise. Et il faut également observer les périodicités d'entretien puis tous les conseils d'entretien qui sont émis par le manufacturier.
Donc, on se trompe pas si on dit que c'est pas obligatoire nulle part. Donc, s'il y a des écoles qui n'en auraient pas systématiquement, ce serait pas nécessairement surprenant parce que je voyais dans des villes, ça semblait différer quand même.
sans entrer trop dans le détail, il y a une réglementation en matière de construction qui a été appliquée pour certains bâtiments au Québec et qui est obligatoire. Par contre, il y a certains bâtiments qui ont été laissés à la discrétion des municipalités. Donc, il y a une partie du patrimoine bâti qui est sous l'égide des municipalités. Dans le cas d'une école, c'est la réglementation provinciale qui s'applique. Par contre, au niveau de cette réglementation-là, précisément, les dispositions qui sont entrées en vigueur en 2008 étaient pour des constructions neuves et on s'est attardé, et c'est là que j'attire votre attention, sur les lieux de sommeil, donc les habitations et les résidences de type RPA, comme j'ai mentionné précédemment, parce que ce sont des lieux où on va retrouver des lieux de sommeil. Et le gouvernement, le ministère de la Famille, a même étendu sa réglementation au niveau des garderies dernièrement, dans les dernières années, suite à des incidents impliquant le monoxyde de carbone. On est venu demander aux garderies, aux CPE, d'ajouter des avertisseurs de monoxyde de carbone parce que les jeunes enfants peuvent être appelés à dormir à l'intérieur. Donc, on s'est vraiment attardé au lieu de sommeil pour la raison que le docteur Hamel a précisé, c'est quand on est endormi, le monoxyde de carbone risque de nous plonger dans un sommeil plus profond sans qu'on ait conscience nécessairement des symptômes qui sont apparus aux enfants là, quand on a parlé de maux de tête, de nausées, d'étourdissements, etc. On ne sera pas conscient que notre état de santé est altéré. Donc, c'est là le danger. C'est un tueur silencieux, le monoxyde de carbone, il faut le rappeler. C'est inodore, incolore et insipide.
On se souviendra, juste avant les fêtes, il y avait eu un cas en Mauricie, entre autres, d'un couple qui est mort intoxiqué dans leur résidence alors qu'il y avait une génératrice d'appoint qui fonctionnait juste à l'extérieur dans le garage qui est voisin, puis il n'y avait pas d'électricité. Donc, on ne sait même pas s'il y avait un détecteur de monoxyde de carbone, mais ces gens-là, dans la finalité, en sont morts dans leur sommeil à ce moment-là. Merci beaucoup, Martin Aubert, d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir, M. Beaumont.
Il est vice-président de l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec.